Bienvenue dans 1000 grammes de savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Vous êtes en présence d'Olivier Klein. Bonjour Olivier.
Bonjour Julia.
Et de moi, Julia Eberlein.
Alors, d'habitude, on discute avec nos invités des résultats de leurs recherches en psychologie. Aujourd'hui, on va aborder une thématique un peu différente, car dans cet épisode, on va justement se demander comment les scientifiques s'y prennent pour obtenir ces résultats et quels problèmes ils ou elles rencontrent sur leur route. Plus particulièrement, on va parler de ce qui se passe quand le processus scientifique fonctionne pas tout à fait comme il faut, comme prévu, et qui amène à quelque chose qu'on appelle souvent la crise de la réplication. Alors pour parler de ça, on a invité Amélie Brett, qui est maîtresse de conférences à l'Université de Nantes. Son travail porte entre autres sur ce qu'on appelle la métascience. La métascience, c'est la réflexion sur et l'investigation des pratiques scientifiques. C'est en quelque sorte la science des sciences, si on veut. Mais Amélie est psychologue de formation, elle a fait beaucoup de recherches en psychologie, et donc elle utilise les modèles et les connaissances, notamment de la psychologie sociale, pour investiguer l'évolution de la science. Bonjour Amélie.
Bonjour à tous les deux.
Alors, peut-être pour commencer, une première question, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que ça veut dire réplication et pourquoi c'est quelque chose de si important dans la science?
Oui, tout à fait. Alors, la réplication, c'est l'idée d'aller observer de nouveau un effet qu'on aurait déjà observé. Donc, l'idée, c'est quand on fait de la science, de la psychologie expérimentale, on va mener une expérience, on va recueillir des données et on va interpréter ces données et conclure à un effet. Et répliquer, le concept de réplication, c'est aller essayer de reproduire, de retrouver l'effet initial. Et donc, on peut parler de réplication, on peut dire qu'un effet a été répliqué lorsqu'on retrouve l'effet qu'on a trouvé dans un premier temps.
Merci beaucoup, Amélie. Pour moi, ça me semble un peu la base de la science, en fait. Donc, un résultat scientifique, en tout cas, quand je lis les scientifiques ont trouvé, on s'attend effectivement à ce qu'ils retrouveraient la même chose s'ils feraient la même expérience.
Oui, effectivement, c'est hyper important. Ça fait vraiment partie de la pratique scientifique. C'est vraiment inhérent à la pratique scientifique, à la science, d'aller chercher à répliquer les effets. Parce qu'en fait, si on trouve un effet une seule fois, c'est peut-être super et c'est peut-être un effet qui existe et qu'on pourrait répliquer, mais on ne le sait pas. Si on va juste l'observer une seule fois, on ne peut pas savoir si c'est un effet qui est stable, qui est robuste et qu'on va pouvoir retrouver de nouveau. C'est peut-être un effet qu'on a trouvé finalement totalement par hasard et qu'on ne le retrouverait plus jamais. Donc c'est vraiment très important d'aller voir si cet effet il est robuste, s'il est stable, si on peut l'observer de nouvelles fois. Et que c'est vraiment pas un effet qui est dû au hasard et que finalement n'existe pas du tout.
Et alors qu'est-ce qu'on entend par ce terme de crise de la réplicabilité dont on entend parfois parler quand on est scientifique? C'est un terme qui nous environne en quelque sorte. Qu'est-ce que ça veut dire?
Effectivement, alors surtout en psycho, on a beaucoup, beaucoup entendu parler de ce terme de la crise de la réplication. Il y a eu plusieurs éléments, plusieurs études qui ont été faites entre les années 2010 et même jusqu'à 2024, hein, qui se sont intéressées justement à ce concept de réplication. L'idée, ça a été de voir si les effets qui avaient déjà été publiés en psychologie, mais c'est aussi un terme qui concerne d'autres disciplines scientifiques, l'idée, c'est de voir si les effets qui avaient déjà été publiés dans la littérature, donc dans des articles, dans des revues scientifiques, étaient réplicables. Donc, est-ce qu'on parvenait à retrouver de nouveau des effets qui avaient déjà été publiés dans des articles scientifiques? Et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'en fait, c'était pas si simple de retrouver des effets qui avaient déjà été publiés. Donc, on parle de crise de la réplication, justement pour référence à l'ensemble de ces effets qu'on n'arrive pas à répliquer, qu'on pensait robustes parce que publiés, parce que largement diffusés, parce que largement cités par d'autres chercheurs et chercheuses, mais en fait, on n'arrivait pas à retrouver de nouveau ces effets.
Et est-ce qu'on sait un peu d'où ça vient? Parce qu'on pourrait avoir cette idée très idéaliste de la science et du scientifique idéaliste qui cherche et rien est plus important que l'objectivité et la méthode, et tout est très compliqué et très pointu, et on peut vraiment se fier à ça. Est-ce que c'est une idée qui est peut-être fausse et la réalité c'est plus proche du super vilain scientifique qui veut dominer le monde et qui en réalité s'intéresse vraiment pas à ce que ça, c'est vrai ou faux, c'est plus genre un gain personnel, ou est-ce qu'on a une vraie idée de d'où ça vient?
On a de plus en plus une idée précise en fait d'où viennent ces problèmes et d'où vient cette crise de la réplication. Il y a un ensemble de ce qu'on appelle les pratiques discutables de recherche qui ont été pointées du doigt comme étant problématiques pour justement répliquer des effets. C'est un ensemble, par exemple, l'absence de partage des données, la flexibilité dans l'analyse des résultats, donc c'est-à-dire avoir plus ou moins ajuster plus ou moins notre analyse statistique en fonction de nos hypothèses ou de nos données. C'est vraiment voilà, un ensemble, c'est pas du tout une liste exhaustive là, ce dont je viens de parler, mais c'est un ensemble de pratiques qui viennent finalement interférer avec la possibilité de réplication. Et l'idée, c'est pas du tout de dire les chercheurs ont été super vilains justement et on fait ça volontairement. Moi, je défends vraiment l'idée que c'est un manque d'information, un manque de connaissance finalement du fonctionnement de plein de processus de recherche qui ont mené à cette crise de la réplication. Mais je défends l'idée que c'est pas quelque chose d'intentionnel et qu'il y a vraiment, c'est des pratiques qui sont réalisées par mésinformation, mais pas par mauvaise intention. Et là, je fais vraiment référence aux pratiques de recherche discutables, donc aux petites pratiques de recherche qui se font et qui viennent vraiment rendre difficile la réplication, mais je ne parle pas du tout de la fraude, qui est vraiment quelque chose de différent et qu'il faut vraiment distinguer des pratiques de recherche discutables.
Ok, merci. Peut-être pour que ce soit vraiment peut-être plus concret pour nos auditeurs et auditrices, est-ce que tu pourrais nous donner peut-être un exemple de ce que tu entends par effet qui aurait pu être l'objet de cette crise de la réplication, par exemple?
Alors, par exemple, un effet très simple, par exemple, qui peut être étudié en psychologie sociale, c'est l'effet de la température d'une pièce sur les comportements de violence. Donc, imaginez une expérience où on met 3-4 participants dans une pièce qui est à 27 degrés et 3-4 participants dans une autre pièce qui est à 15 degrés. Et notre mesure, ce qu'on va chercher à observer, c'est les comportements de violence. Donc, on va aller regarder dans l'une et dans l'autre pièce si les individus ont entre eux plus ou moins de comportements de violence en fonction de la pièce dans laquelle ils se trouvent. Et donc, les conclusions qu'on va faire en fonction des données qu'on va récolter, ça va être ça notre effet. C'est-à-dire, je remarque que dans la pièce à 25 degrés, il y a plus de comportements de violence que de comportements de violence dans la pièce à 15 degrés. Ça, c'est un effet.
Donc là, j'ai déjà... C'est intéressant parce que mon intuition, ça serait à 27 degrés, tout le monde est confortable, tout le monde est relax. Et à 15 degrés, tout le monde est un peu froid et un peu nieux, j'aime pas trop. Et donc j'aurais fait la prédiction inverse, en fait. Est-ce que ça c'est lié à cette idée aussi? Qu'on peut faire, en fait, des hypothèses tout à fait différentes par rapport à la même étude?
Oui, tout à fait. Faire des hypothèses différentes par rapport à la même étude, c'est quelque chose qui peut être un gros avantage pour l'étude et la recherche, et un vrai point fort pour la recherche, mais qui peut aussi être un inconvénient si on ne précise pas en amont les changements qu'on peut faire. C'est la différence qu'on peut faire entre analyse exploratoire et analyse confirmatoire, mais là c'est un peu plus technique.
Alors donc du coup si je dis par avance, donc je pourrais avoir l'hypothèse que toi tu as postulée, que à 27 degrés les gens ont un comportement plus agressif. Or dans mes données par après, je trouve que c'est les gens dans la pièce de 15 degrés. Et donc par après, je pourrais dire mais en fait c'est logique parce que pour des raisons tout à fait valables, mais on pourrait en fait changer son hypothèse parce qu'on se dit bah là maintenant que je sais que c'est l'inverse. Ça me paraît logique parce qu'en fait, quand c'est chaud, c'est confortable. Et donc, on fait comme si on avait toujours la première, l'hypothèse de « ils sont plus agressifs quand il fait froid ».
Exactement. Ça, c'est justement une pratique de recherche discutable. On parle de arcing. Donc, ça fait référence en fait au fait de changer les hypothèses une fois qu'on connaît les résultats. Et ça, c'est problématique parce que si on observe donc un effet, il va avoir du sens cet effet s'il est en lien avec notre hypothèse. Mais si on va modifier notre hypothèse après avoir vu les résultats, en fait, on perd en qualité du résultat et on augmente les chances de ne pas répliquer notre effet si on va faire de nouveau notre étude. Ça fait vraiment partie des problèmes justement qui ont mené à cette crise de la réplication. C'est un gros, gros problème, le fait de changer ses hypothèses a posteriori. Donc, une fois qu'on a analysé notre effet et regardé, analysé nos résultats et regardé notre effet.
Mais ça semble un peu bizarre, ça. Pourquoi ça changerait quelque chose? Après, les résultats, ils restent les mêmes, qu'on ait changé l'hypothèse ou pas, non?
Oui, effectivement, mais c'est l'idée qu'on va perdre en éléments. Si on modifie notre théorie après avoir regardé nos résultats, l'idée, c'est qu'on va perdre des sortes de points qui vont nous faire aller dans le même sens. Et il faut en fait cumuler les choses. C'est OK, on a des données qui vont dans ce sens-là, mais on a aussi toute une littérature scientifique qui irait dans ce sens-là. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois, on cumule un certain nombre d'éléments qui nous permettent de faire une conclusion. Mais ce n'est pas seulement « Ah bah tiens, je fais une expérience, j'ai mes données et c'est bon, j'arrive à une conclusion. » La pratique scientifique, c'est « J'ai un certain nombre d'éléments qui nous permettent d'arriver à cette conclusion. » Ce n'est pas un seul. C'est « Je cumule la théorie, je cumule toutes les articles qui ont déjà été publiés dans la littérature et je cumule aussi les effets, les données de mon expérience actuelle. »
Ok, je vois.
Il y a aussi l'élément du contexte scientifique. Et donc, si on dit, voilà, les scientifiques font des pratiques qui sont peut-être pas tout à fait nettes, mais ils font pas ça par mauvaise volonté. Si tout le monde fait ça, ça crée des problèmes, non? Donc, ce contexte dont tu parles, c'est quoi l'impact de ça?
Effectivement, les normes et le contexte scientifique, ce que les journaux demandent. Quand on fait de la recherche, un des éléments importants dans notre pratique, c'est la communication de nos résultats et l'écriture d'articles. Donc, en gros, lorsqu'on fait une étude, on va donc établir notre protocole, regarder la littérature scientifique, établir notre protocole, mener notre expérience, analyser nos données et écrire un article et le soumettre dans une revue scientifique. Et donc, dans l'idée de partager nos résultats à la communauté. Et donc, la manière dont les journaux vont nous demander d'expliquer notre expérience, nos analyses, ça va conditionner la manière finalement dont on va pratiquer la recherche. Donc, les journaux ont aussi un grand rôle à jouer et établissent, enfin, un grand rôle à jouer dans les normes en fait qui sont diffusées. Et c'est justement le contexte auquel tu fais référence. C'est vraiment quel est le contexte, qu'est-ce qu'on valorise ou non dans la pratique de la science finalement.
Oui, et peut-être un élément qui joue beaucoup, semble-t-il, c'est ce qu'on appelle la recherche de résultats significatifs. Parce que les chercheurs, ils vont avoir souvent la peine à publier leurs résultats s'ils n'ont pas ce qu'on appelle des résultats significatifs. Et donc ça peut en quelque sorte, si je ne me trompe, créer une sorte de contrainte ou en tout cas de motivation peut-être à parfois interpréter ces données d'une façon ou d'une autre, non?
Oui, tout à fait. On fait justement référence au biais du publication. Alors, c'est en train de changer, c'est en train d'évoluer drastiquement, mais ces 15 dernières années, il y a eu justement cette constatation que pour publier des travaux, enfin, les travaux publiés étaient en général des travaux qui montraient une différence significative entre les deux groupes. Donc, si je reprends mon exemple des comportements de violence conflictuelle en fonction de la température, un effet significatif, ça voudrait dire qu'on observe bien une différence entre ma salle à 27 degrés et ma salle à 15 degrés. Et donc, voilà, ce dont on s'est aperçu, c'est que finalement, il y aurait un biais de publication dans la mesure où tous ces travaux qui n'observeraient pas de différence significative, c'est-à-dire pas spécialement de différence de comportement de violence entre ma salle à 27 degrés et ma salle à 15 degrés, ça contribue en fait aux difficultés de réplication, puisqu'on ignore l'ensemble des travaux qui n'observent pas de différence entre nos deux salles.
Ah oui, donc par exemple, un chercheur ou une chercheuse qui voit les résultats publiés se dit « Ah ben oui, il y a un effet de la température », et puis quand il essaye de le répliquer, ça ne marche pas, il est dépité ou elle est députée. Or, s'il avait eu accès à toutes ces études qui n'ont rien donné, il aurait pu vraiment s'y attendre en quelque sorte.
Oui, tout à fait. Parce que finalement, si on voit juste cette étude-là où, ah bah oui, il y avait, on pense qu'il aurait pu y avoir une différence, mais finalement, il y a une seule étude qui a montré une différence. Alors que si on regarde le reste des études qui étaient intéressées dessus, bah, il y en avait 50 autres qui n'ont pas montré d'effet de différence significative entre les deux. C'est certain que on aurait pu, si on avait su tout ça, on aurait largement pu prédire bah, qu'il n'y ait pas forcément de différence entre nos deux salles.
Ok. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, pour essayer de... Quelles ont été les solutions finalement qui ont été proposées pour lutter contre cette crise de la réplication?
Bah, déjà directement en lien avec ce dont on vient de parler, ce biais de publication potentielle, il y a le développement de nouvelles formes d'articles scientifiques, comme par exemple les registered reports. Donc l'idée des registered reports, c'est de, donc comme je vous le disais tout à l'heure, lorsqu'on mène une étude, on va lire la littérature, construire notre protocole. Une fois que notre protocole il est fait, mener une expérience, donc avec des participants et des participantes, analyser, interpréter et publier. L'idée des registered reports, c'est qu'on va soumettre à la revue scientifique, au journal, on va soumettre donc notre introduction et notre méthodologie, c'est-à-dire la manière dont on prévoit de tester nos hypothèses, avant même qu'on ait commencé la récolte des données. Donc, c'est-à-dire que quels que soient nos résultats finaux, si le journal évidemment valide notre article, on va pouvoir publier. Donc en fait, le journal vient là pour nous dire, OK, votre introduction, votre théorie et votre méthodologie, c'est OK, on est d'accord avec la manière dont vous testez cette hypothèse-là. Maintenant, vous pouvez y aller et quels que soient vos résultats, on vous assure qu'on vous publie.
Ah oui, donc ça permet en quelque sorte de nous protéger de notre mauvaise foi, de notre tendance à interpréter les résultats dans le sens qui nous arrange, en quelque sorte. Même si on est tout à fait honnête, en fait, hein. C'est une méthode très, très subtile et intéressante pour répondre à ce problème.
On entend souvent parler de la science ouverte. Là, je vois déjà dans les registered reports, je vois déjà un peu cet élément d'ouverture, donc de la science ouverte, où les journaux et les personnes qui vont relire les articles avant leur publication, ils ont vraiment accès à des informations sans qu'il y ait déjà des données, etc. Donc à une étape beaucoup plus tôt. Donc, est-ce que ça fait partie de ces pratiques de sciences ouvertes? Est-ce que ça c'est lié?
Oui, tout à fait. L'idée vraiment de la science ouverte, c'est de rendre plus transparent l'ensemble du processus finalement scientifique. C'est-à-dire, bah vraiment, l'idée de la science ouverte, c'est de partager tout ce qu'on peut partager de façon à rendre plus réplicable notre effet. Donc, je me rends plus transparente sur ma bibliographie, sur les articles que je vais citer. Je me rends plus transparente sur le partage de mes données. Donc, je rends accessible les données de mes études. Je rends accessible le matériel que j'ai utilisé. Je rends accessible mes analyses de données. Donc, comment j'ai analysé les données que j'ai récoltées. L'idée, c'est vraiment de dire aux autres, bah, voici tout ce que j'ai à ma disposition. Vous pouvez maintenant regarder tout ça. Et donc, si vous souhaitez répliquer l'étude, vous avez tout entre vos mains, tout est possible. Donc, l'idée, c'est vraiment d'augmenter la possibilité de réplication, vraiment d'augmenter la robustesse et de contribuer à une science plus robuste globalement.
Ça a l'air super, mais donc ça a l'air aussi d'être un travail très intense parce que donc de mon expérience d'ancienne doctorante ou scientifique, c'est vraiment en soi l'expertise qu'on développe pendant un doctorat ou un travail scientifique, c'est l'expertise de la littérature dans le champ des résultats et tout ça. Mais nous en psycho, par exemple, on n'est pas des statisticiens, on a des cours de stats, on apprend des stats, on a des cours, parfois si on a de la chance, un peu des cours de programmation ou de gestion de données, mais ça c'est encore assez rare. Mais c'est tous des capacités qu'il faut avoir. Donc c'est vraiment, ça me semble une pratique très très idéaliste, si on veut.
Oui, c'est sûr. Et c'est pour ça qu'il faut. Enfin, c'est normal que ça prenne du temps. C'est normal qu'il faille se former. C'est normal que le changement vraiment se fasse pas du jour au lendemain. C'est voilà, les premiers travaux de réplication, c'est début des années 2010. Là, on est en 2024. On pourrait se dire, bah, comment ça se fait que 14 ans plus tard, on en soit encore à parler de crise de réplication? Comment ça se fait qu'il y a encore des travaux qui ne sont pas réplicables et que ce soit pas si simple et qu'on n'arrive pas à accéder à tout? Mais je pense que c'est normal et que ça va prendre encore des années. C'est toute une norme qu'il faut changer, c'est toute une manière de penser, c'est des générations qu'il faut former. Il y a eu vraiment voilà, cette évolution qui a été rapide dans les années 2010-2020, mais enfin, voilà, il y a les générations de chercheurs, elles s'étendent quand même beaucoup. Donc, c'est vraiment normal que ça prenne beaucoup de temps, que les revues aussi s'adaptent, que les normes globalement changent.
Donc, est-ce qu'on peut encore avoir confiance dans les résultats scientifiques? Donc, si je vais sur, je ne sais pas, Le Soir ou RTBF ou un autre site et c'est écrit « Les scientifiques ont trouvé », est-ce que je peux le croire?
Alors oui, enfin, comment dire, évidemment, c'est toujours quelque chose qu'il faut prendre. C'est une question qui est très difficile. Moi, je pense que évidemment, oui, on peut croire aux résultats scientifiques, mais il faut toujours les mettre dans un contexte. Mais cette lecture-là, tout le monde ne peut pas l'avoir dans le sens où c'est un métier, en fait, de se dire, bon, bah, comment j'interprète ça par rapport à une littérature donnée? On peut avoir confiance dans la littérature scientifique, d'autant plus que ce sont des résultats qui ont été déjà répliqués. Et c'est une question qui est d'ailleurs assez intéressante, justement. Il y a des travaux métasciences qui se développent de plus en plus, notamment autour des nouvelles pratiques de recherche et la confiance que le grand public donne en la science. Et en fait, il y a un article récent qui montre que justement, si on parle de nouvelles pratiques de recherche, d'augmentation de la transparence, ça augmente aussi la confiance du grand public envers la science. Donc, je pense vraiment que les nouvelles pratiques de recherche, que la transparence dans la recherche, c'est vraiment une porte d'entrée assez intéressante pour justement regagner la confiance du grand public, qui n'est pas forcément évidente.
Peut-être on peut aussi dire que plus des résultats scientifiques qu'ils ont présentés dans la télé ou ailleurs ont l'air sensationnels. C'est un peu comme avec les fake news et d'autres nouvelles de ce type. Plus ça a l'air sensationnel, plus on devrait peut-être dire voilà, c'est un premier résultat, on attend un peu les réplications et on attend quelques années.
Oui, tout à fait, ça je pense que c'est très très important. Et d'ailleurs, si en général on écoute les scientifiques parler, en général les scientifiques vont souvent avoir quand même cette réticence à être très certains. En général, il va toujours y avoir une sorte de modération dans le partage des résultats, de se dire bah voilà, c'est ce qu'on a observé dans cette étude, mais il faut attendre de voir si on peut le retrouver, si on le réplique. Effectivement, il faut quand même se méfier du côté sensationnel parce qu'il n'y a rien de si tranché et c'est toujours à prendre dans un contexte.
Il y a aussi la question du est-ce que c'est vraiment que la psycho qui est concernée? Parce que ça, donc chez nous, en psychosocial ou dans la psychologie de façon générale, on pourrait un peu avoir cette impression qu'il y a uniquement une crise de réplication en psycho. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment la psycho qui est la pire de toutes les sciences? Ou est-ce que c'est un biais aussi?
Alors, la psycho est particulièrement touchée et on a beaucoup entendu parler de crise de réplication en psycho, mais c'est pas que en psycho. Hein. Il y a eu certaines branches de la biologie, l'économie. Enfin, il y a vraiment plusieurs disciplines qui sont touchées par cette crise de réplication. Et c'est pas parce qu'on n'entend pas parler de crise de réplication dans les autres disciplines qu'on peut dire qu'il n'y en a pas eu. C'est peut-être simplement qu'elles ne sont pas intéressées aussi à cette question-là. Donc, non, la psycho n'est pas du tout la seule concernée.
Ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, en fait.
Oui.
C'est bien pour nous, on n'est pas les seuls à avoir fait des bêtises, mais ça veut dire que les autres doivent être prudentes aussi.
Mais finalement, toute cette crise de la réplication, elle a vraiment du bon et il y a vraiment plein de choses qui sont très positives suite à ça. Il y a plein de nouvelles méthodes qui sont développées, plein de nouvelles manières de penser, des nouvelles manières de publier. Donc, ok, ça a été dur, ça peut l'être encore pour certains éléments, mais c'est quand même très positif et ça permet vraiment un renouveau finalement de la pratique scientifique.
En dépit de tous ces avantages, est-ce que tu vois encore des gens qui sont résistants ou qui sont peu enthousiasmés par rapport à ça et qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette situation?
Bien sûr. Oui, évidemment, c'est la question qui m'intéresse le plus finalement au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment de se demander comment en fait est-ce qu'on va, quels sont les leviers pour favoriser l'adoption des nouvelles pratiques de recherche. Moi, j'en fais vraiment ma spécialité de recherche maintenant, c'est de se dire comment on convainc, comment on favorise l'adoption des nouvelles pratiques. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup en fait sur quels sont les freins, quelles sont les différences interindividuelles entre les individus qui vont venir expliquer ces différences d'adoption. Mais moi, je pense que la formation, le fait de répéter, de d'être bienveillant. La bienveillance, à mon sens, c'est la clé du changement. Être bienveillant entre chercheurs et chercheuses, se dire que c'est pas de la mauvaise intention. Ça, c'est vraiment des éléments, je pense, qu'on peut valoriser. Le fait de changer les méthodes d'attribution des financements, changer les méthodes de recrutement. Voilà, ça fait partie des normes du processus, du processus scientifique, mais c'est des choses qu'il faut changer pour pouvoir favoriser à long terme l'adoption de ces nouvelles pratiques.
Est-ce que tu as une idée pourquoi c'est tellement difficile pour les gens de changer ces pratiques? Parce que si on entend ce que tu as dit tout à l'heure, on pourrait avoir l'idée que ces nouveaux pratiques, genre, ça améliore la qualité de la science. Les scientifiques, c'est ce qui les intéresse, c'est de produire des résultats de qualité. Mais donc, pourquoi est-ce qu'il y a une résistance à ces changements?
Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a le fait que pour plusieurs générations de scientifiques, ils et elles ont été formés vraiment d'une autre manière, sans avoir en tête la crise de la réplication, avec des méthodes différentes. Et donc, bah, on sait très bien, changer un comportement, c'est quelque chose qui est difficile et qui prend du temps. Moi, j'ai commencé ma thèse. Les débuts de ma thèse, c'était en 2015, donc c'était vraiment plein dans la crise de la réplication, c'est-à-dire que j'ai vraiment été formée finalement en même temps qu'il y avait tous ces changements. Je suis devenue ambassadrice pour le Center for Open Science la première année de ma thèse, donc ça fait vraiment partie, en fait, ma formation a été vraiment directement au sein de ces problématiques-là. Et donc je me sens chanceuse, en fait, d'avoir pu grandir directement avec ces nouvelles pratiques-là. Mais pour beaucoup d'autres chercheurs et chercheuses qui ont soutenu leur thèse bien avant moi, finalement, ils et elles connaissent autre chose. Donc c'est beaucoup plus difficile de modifier ces pratiques parce qu'on quand on en connaît déjà d'autres avant que lorsqu'on en apprend directement des nouvelles. Donc je pense que c'est tout à fait normal que ça prenne du temps. Et aussi, quelque chose d'important, c'est que le temps disponible pour les enseignants-chercheurs et les chercheurs, il est restreint en fait. Enfin, surtout les enseignants-chercheurs où on a quand même beaucoup d'activités pédagogiques à côté. Donc le temps pour se former, pour prendre le temps de vraiment se dire, OK, qu'est-ce qui ne va pas dans ma pratique? Qu'est-ce que je devrais modifier? Il est relativement restreint. Donc c'est pas facile de changer un comportement quand on n'a pas l'espace disponible pour le faire.
Ça, c'est peut-être une information intéressante parce que je me rends compte que beaucoup d'étudiants même savent pas que leur professeur à l'université, c'est pas uniquement des enseignantes, c'est aussi des chercheurs. Et les chercheurs dont on parle, en fait, dans la presse, justement, c'est ces mêmes enseignantes. Donc, les professeurs, souvent, pratiquement toujours, ils font et l'enseignement et la recherche.
Et peut-être aussi quelque chose qui me semble intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a vraiment la question de ce qu'on appelle la productivité. Finalement, on a un temps limité pour travailler et ce qu'on a appelé peut-être les anciennes pratiques de recherche par opposition aux nouvelles, elles sont finalement centrées très fort sur une forme de productivité. Donc, est-ce que quand tu dis qu'il faut peut-être changer les critères d'évaluation, est-ce que une de ces idées, c'est justement de plus réfléchir en termes de productivité, mais utiliser d'autres indicateurs, et si oui, lesquels?
Effectivement, je pense que réfléchir à de nouveaux indicateurs, à se dire bah, peut-être qu'on va moins regarder simplement le nombre de publications, puisque c'est ce qui a été fait pendant longtemps et ce qui est encore fait, notamment dans les comités de sélection, de se dire bon, bah, je prends ce candidat parce qu'il a plus de publications qu'un autre. Peut-être qu'on peut regarder bah, les journaux dans lesquels cette personne, le chercheur ou la chercheuse ou le candidat ou la candidate publie. Il y a d'autres indicateurs, par exemple le Top Factor, qui est un indicateur de transparence du journal. Donc se dire, bah, ah, je vais peut-être favoriser un candidat qui a publié dans des revues qui sont plus transparentes, plutôt que de regarder la quantité d'articles qu'il a publiés. Ou ça peut être aussi, ah bah tiens, est-ce que ce candidat a déjà publié un registre de report ou a déjà fait un préenregistrement de ses hypothèses? C'est vraiment plutôt se dire, bah, je vais favoriser des personnes qui adoptent des pratiques transparentes par rapport à des personnes qui produisent beaucoup.
Ouais, c'est une belle idée, mais est-ce qu'il n'y a pas un danger alors que ça devienne une forme de, tu vois, d'habitude, mais qui ne reflète pas une véritable conviction que les gens finalement s'adaptent, essayent de passer dans les clous, mais n'y croient pas vraiment, juste ils font ce qu'on leur demande.
Peut-être qu'on doit passer par là pour qu'il y ait un changement des pratiques plus générales. Enfin, ça me dérangerait pas en fait que si c'était vraiment une injonction un peu bah, se dire bon bah on fait ça sans trop comprendre pourquoi, mais se dire bon bah on fait ça. Il y a des travaux qui montrent que c'est plus intéressant pour la recherche de fonctionner comme ça. Et peut-être dans un second temps, bah, on sera plus convaincu et on le fera plus par motivation intrinsèque.
Est-ce qu'il y a des situations où tu crois que les pratiques de transparence sont peut-être juste pas adaptées? Donc, où il y a des thématiques de recherche, par exemple, où tu dis, voilà, là, les pratiques de sciences ouvertes, c'est juste pas possible pour une raison ou une autre.
Parfois, il y a certaines recherches qui sont faites avec des entreprises ou voilà, qu'il y a une clause de confidentialité particulière qui peuvent être un peu plus difficiles à rendre transparentes. Mais j'ai jamais encore rencontré vraiment de protocole ou de personne pour laquelle c'était impossible de faire de la science ouverte, en fait. Ça peut être simplement bah, décalé dans le temps, se dire je ne rends pas forcément mes données ouvertes tout de suite parce que justement il y a cette clause de confidentialité, mais dans un second temps, je les rends ouvertes. Enfin, non, je pense qu'il n'y a pas vraiment de pratique qui ne se prête enfin, de recherche qui ne se prête pas du tout à la transparence.
Et peut-être il faut aussi rappeler que donc quand tu dis à des pratiques, ça veut dire qu'il y a tout un tas de différentes pratiques et on peut en adopter une ou deux, ou alors aller tout à l'autre extrême et faire tout extrêmement ouverte et transparente, et entre les deux, il y a une marge possible.
Tout à fait. Et ça, je pense que c'est super aussi important de l'entendre et de te dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui je n'adopte aucune de ces nouvelles pratiques que c'est du 0 ou 1 et qu'il faut adopter toutes les nouvelles pratiques en même temps. Adopter une pratique par rapport à 0, c'est mieux. En adopter deux par rapport à une, c'est mieux. Mais l'idée, c'est pas de passer à un protocole de recherche parfait du jour au lendemain. Donc, c'est vraiment un continuum et c'est quelque chose. Tout le monde, en fait, s'améliore au fur et à mesure, en fonction, encore une fois, de son temps disponible, des ressources. On fait au mieux.
Peut-être projetons-nous justement peut-être un peu dans l'avenir. Il y a plein d'initiatives pour le moment. C'est vraiment un monde foisonnant, celui de l'open science. Est-ce que parmi toutes les initiatives auxquelles tu es confronté, auxquelles tu es exposé, il y en aurait peut-être une ou deux qui te séduisent particulièrement et dont tu pourrais nous dire quelques mots?
Alors, bon, jusque-là, j'étais assez sensible à l'initiative du Center for Open Science, qui est un gros, gros, gros projet. C'est un des plus médiatisés, si je puis dire, enfin, les plus connus, en fait, dans le monde de la recherche. Et l'idée, en fait, c'est de créer une communauté qui travaille sur la question des nouvelles pratiques de recherche. Et en fait, dans ce Center for Open Science, les chercheurs et chercheuses ont développé tout un tas d'outils, en fait, permettant la gestion de projets, de rendre justement transparente. L'idée, c'est aussi pour observer un changement de comportement, l'idée, c'est de le rendre le plus facile possible pour la communauté. Et donc, c'est vraiment un de leurs objectifs, se dire, bon, bah, notre plateforme, elle permet de faire de la gestion de projets de recherche de manière transparente assez facilement en fait pour les chercheurs et chercheuses. Ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est hyper important, rendre la pratique facile et accessible. Et tout est gratuit, donc ça veut dire que dans n'importe quelle université, quelle que soit l'université dans laquelle les chercheurs et chercheuses sont, l'adoption de ces pratiques est possible.
Toi, tu es aussi à l'origine d'une initiative par rapport ou en lien avec la science ouverte et la transparence. L'initiative du Slopen Science, est-ce que tu peux nous dire un peu sur ça?
Oui, effectivement, donc avec quelques copains et copines en fait à l'origine qui font aussi de la recherche en psycho et dans les disciplines annexes, on a fondé une association autour des nouvelles pratiques de recherche et de la slow science. Donc l'idée est simple, c'est on cherche à ralentir en fait la pratique scientifique en lien un peu à ce que je disais précédemment. L'idée, c'est de prendre le temps de se poser, de se former, de faire de la recherche pour faire de la recherche de meilleure qualité. Donc voilà, on est vraiment un petit groupe qui essayons de travailler. La bienveillance, c'est quelque chose qui est très important dans notre groupe, c'est de prendre le temps de se co-former et d'apprendre des choses des uns des autres pour faire produire de la science de meilleure qualité.
Merci beaucoup, c'était super intéressant.
Merci.
Merci beaucoup à vous.
Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode Migraine de savoir, l'interview avec Amélie Brett. N'hésitez pas à consulter notre site migraine.ulb.be qui contient des informations complémentaires où vous trouverez notamment un lexique et des références. Si la thématique de la métascience vous a intéressé, peut-être que notre interview avec Florian Kova sur la philosophie des sciences va également vous intéresser. Vous le trouverez parmi nos anciens épisodes ainsi que sur notre page milgram.ulb.be dans la section épisodes par thématique.
Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou SoundCloud et nous suivre sur Facebook, Instagram, X, anciennement Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous soutenir en nous laissant des étoiles sur Spotify, Apple Podcasts et Facebook. Cela nous aide énormément.